Appelez de Discord, une émission de Radio Zinzine. Voilà un projet industriel qui sème bien la polémique. Il s'agit d'une usine de pellets torréfiés qui pourrait bientôt voir le jour à Viam Bouja en Haute-Corrèze. L'objectif est de prélever 100 000 tonnes de souches et de branchages d'arbres dans un rayon de 80 km pour fabriquer 45 000 tonnes de pellets ou granulés de bois par an. Ce projet fait partie d'un nouveau phénomène, l'engouement pour le bois énergie industriel, censé être une solution écologique et renouvelable capable de remplacer les centrales à charbon en France et plus largement les énergies fossiles, notamment pour le chauffage. En réalité, le recours de plus en plus massif au bois énergie a des conséquences néfastes pour les forêts, pour le climat et pour la qualité de l'air. Après une enquête publique d'un mois, le commissaire enquêteur a émis début février 2018 un avis favorable. Ceci malgré une très forte contestation locale. Pour en comprendre plus, nous avons pu interroger 4 participants à l'Assemblée générale du Réseau pour les alternatives forestières qui a eu lieu le 2 juin 2018 en Dordogne. Tous les 4 habitent dans la zone d'approvisionnement du projet. Écoutons Emmeline, qui est technicienne forestière, qui a travaillé d'abord pour la coopérative, la grande coopérative de la région, et qui travaille maintenant comme indépendante.
Donc en fait j'habite à Saint-Honoré-de-Noblat, c'est en Haute-Vienne, et je suis au cœur de la future zone d'approvisionnement de cette usine, et en tant que professionnelle, je travaille sur tout ce territoire-là. Donc ça fait 15 ans que je bosse en forêt, en gestion. Je travaillais effectivement un petit peu en coopérative forestière, un petit peu à la DELI pour du regroupement de chantiers et de l'amélioration de forêt. Et depuis 2 ans, je suis technicienne forestière indépendante à mon compte. Et du coup, on s'est senti sensibilisé par rapport à ce projet de création d'usine à pellets. D'abord, par curiosité. Enfin, je veux dire, on est là pour vendre les bonnes nos propriétaires. Donc, tous les débouchés peuvent paraître les bienvenus. Et ensuite, très vite, quand on a compris le projet, quand même, alors le plan d'approvisionnement est assez flou, mais a priori, la part des souches et des rémanents est quand même assez prépondérante. Du coup, là, ça a commencé à questionner. Donc, nous, on s'est mis à notre compte en Limousin. C'est parce qu'on a envie de faire la futée régulière. Et du coup, ce projet nous interroge beaucoup parce qu'il faut à peu près 113 000 tonnes, là, une grosse moitié en souche. Pour enlever des souches, il faut enlever et faire des coupes rases. Et nous, notre objectif, c'est de développer autant que possible une sylviculture douce avec une forêt continue. Et le fait de dessoucher, ça veut dire perpétuer la coupe rase. Et en plus, après, on s'est posé des questions sur l'impact de cette pratique sur nos sols. Et a priori, toutes les études tendent à prouver qu'on va un peu dans le mur d'un point de vue agronomique et écologique pour la forêt.
Parce qu'en fait, ça veut dire que si on fait un coupe rase, déjà on enlève tout ce qui est au-dessus, enfin les troncs, enfin, etc. Le problème avec, si j'ai bien compris, avec le bois énergie maintenant, les pellets ou les plaquettes, etc., c'est que d'abord on va prendre ce qu'on appelle les rémanents, c'est un peu, ou les houppiers, quoi, les branches, les petites branches, etc., qu'au fond, normalement, on laisserait dans la forêt, parce que c'est important pour l'humus, pour refaire le sol, etc. Mais enlever la souche, ça veut dire qu'on laisse absolument rien du tout, quoi, pour régénérer un peu.
Voilà. Alors, on est dans une région où il se passe beaucoup de coupes rases. Alors, on va dire que c'est pas le modèle le plus écologiste, mais on va dire aujourd'hui, quand on fait une coupe rase, on n'enlève que le bois au-dessus de 7 cm. Le reste était soit les souches laissées dans le sol et juste les rémanents mis en andin. Et éventuellement, certains continuent à faire cette pratique qui me paraît un peu dépassé, mais qui se pratique de dessoucher, mais les souches étaient laissées sur la parcelle. Alors on va dire que même si c'est pas parfait, tout ce qui est minéraux, etc., qui permettent d'amender le sol et permettent de faire que la forêt est un système qui tourne sur lui-même, ça restait sur la parcelle, il y avait juste un déplacement des minéraux, de la matière organique localement sur la parcelle. Là, le projet de cette entreprise, c'est qu'il se présente comme une solution innovante pour les propriétaires forestiers, pour leur nettoyer leur parcelle, gagner de la place pour la plantation, en enlevant les rémanents et les souches. Ce qui aujourd'hui ne disent pas, en tout cas publiquement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils auront comme communication vis-à-vis des propriétaires forestiers, mais nous on est dans une région où les terrains sont pauvres, et les études qu'on a et les code de pratique qu'on a sur des terrains équivalents, ça veut dire systématiquement derrière il faut faire de l'amendement, de l'enrichissement avec des engrais chimiques pour compenser ce qui a été enlevé. Donc du coup, on est vraiment très dubitatif sur l'intérêt d'une telle pratique pour la région, parce que ça perpétue les coupes rases qui sont contestées pour des raisons paysagères et environnementales. Et en plus, déjà qu'on part sur des terrains pauvres, on finit d'appauvrir sur nos sols et on ne sait pas quelles forêts on pourra avoir demain. Quoi.
Mais en plus, moi j'imagine que si on veut dessoucher, c'est aussi des très, très gros engins. Il y a déjà des grands engins, les abatteuses qui arrivent pour couper les arbres. Mais c'est quand même des souches, ce n'est pas si simple que ça de les sortir. Donc c'est des gros machins qui vont vraiment tasser le sol, etc.
Ouais, du coup, la coopérative où je travaillais, moi on travaille aussi sur les Landes, donc ils ont fait il y a quelques années un essai de dessouchage pour la cogénération. En fait, ça a marché économiquement tant qu'il y a eu des subventions. Et il faut quand même remettre dans le contexte, on est dans les Landes, c'est des très grandes parcelles qui sont plates, avec tout un réseau de pistes d'accès. Et même là, l'intérêt économique pour une entreprise est très faible. Et du coup, ils veulent transposer ce modèle-là en Limousin, où on a un morcellement, on a un manque d'accès, de places de dépôt, de routes, et faire rentrer de nouveau un engin en plus en forêt, alors qu'on a déjà un tas de problèmes par rapport à la dégradation des chemins et le tassement des sols. Donc pour nous, là, on va dans le mur encore plus pour la forêt. Quoi.
Oui, en plus, si je crois que probablement il y a beaucoup plus de pluie, quoi. La précipitation est plus importante probablement chez vous que par exemple dans les Landes. Enfin, je ne suis pas sûr, mais je pense. Hein. En tout cas, ça risque, parce que c'est aussi plus en pente, donc il y aura beaucoup de ravinement, j'imagine.
Voilà, alors du coup, sur le code de bonne pratique, tu peux mettre que tu vas intervenir que quand il ne pleut pas, que sur un terrain plat, mais on va se retrouver à la réalité économique où ils vont s'engager à un certain tonnage, et cet approvisionnement, il faudra le faire toute l'année. Enfin, et du coup, je pense que le code de bonne pratique, il va vite tomber aux oubliettes face aux impératifs économiques de faire de la pro là-dessus, donc on va vers des problèmes, et je doute qu'on puisse respecter un minimum de précaution.
Antoine habite à Tarnac et suit de très près ce dossier. Il fait partie de la campagne non à la montagne pelée.
Je pense que la première chose qu'on doit expliquer, c'est que déjà ce terme de pelée, il représente une certaine forme de colonisation, parce que c'est un terme anglais, c'est les pellets. Et en fait, on les connaît déjà sous une forme non torréfiée, c'est en français, on dirait des granulés bois. C'est des trucs qui sont réagglomérés à partir de bois broyés, mis en poussière, et qui sont ensuite mis sous forme de granulés, qu'on trouve dans des sacs pour fonctionner avec ce qu'on appelle les chaudières à granulés. Sauf que là, il parle de torréfaction, et on est sur un autre modèle. Je ne vais pas parler ici des pelés blancs, non torréfiés. Là, le projet d'usine, c'est de fabriquer des granulés blancs et de les torréfier ensuite pour une destination industrielle, qui serait en gros utilisée en remplacement du charbon dans les centrales fonctionnant au charbon. Et donc l'avantage comparatif économique que met en avant l'industriel, c'est celui-ci, c'est de dire on va arrêter de consommer du charbon parce que c'est la transition énergétique et qu'il faut arrêter de consommer des énergies fossiles, on va remplacer ce charbon par du pellet torréfié. Et donc ça a deux destinations, c'est les centrales à charbon d'EDF qui peuvent donc le brûler en remplacement du charbon pour produire de l'électricité, ou bien les centrales de chauffe directe pour les chauffages urbains. Et là, l'industriel n'a pas cessé d'évoluer dans ses débouchés. Il a mobilisé tantôt l'un, tantôt l'autre. Ses dernières déclarations, ce serait que ça servirait à des chaudières de Saint-Ouen à côté de Paris, pour la compagnie parisienne de chauffage urbain. En tout cas, c'est pas, juste pour préciser, c'est pas un truc utilisable par le particulier. On est bien sur une exploitation, une utilisation industrielle.
Alors, qu'est-ce que c'est ce processus de torréfaction ? Ça, j'aimerais comprendre ça, mais à part ça, moi, je sais que dans mon pays natal, la Grande-Bretagne, il y a le plus grand central à charbon transformé en centrale à biomasse, qui est Drax, qui brûle actuellement 8 millions de tonnes de pellets par an. mais ce n'est pas torréfié. Donc en fait, il y a pas mal de centrales qui fonctionnent avec des pellets, mais qui ne sont pas torréfiées pour le moment. C'est quoi l'avantage? C'est quoi cette histoire?
Ce que met en avant l'industriel, c'est une meilleure capacité calorifique. Il présente un tableau dans lequel, en bas, on aura le bois sec de chauffe, bois bûche. Plus haut, le pellet blanc, avec une meilleure capacité calorifique du produit. Encore au-dessus, le pellet torréfié, et encore au-dessus du pellet torréfié, le charbon. Donc il avance une capacité calorifique qui est presque égale à celle du charbon à partir de son produit fini. Et pour ce qui est de la Grande-Bretagne, ce que j'ai cru comprendre, et de Paris également, puisqu'on parle de chaudières urbaines à Paris, ils se fournissent déjà actuellement un pellet torréfié pour une partie de leur approvisionnement, qui est produit par une grosse entreprise états-unienne qui s'appelle Zilka, et qui travaille dans le Montana. Et donc les pellets actuellement traversent l'Atlantique, les pellets torréfiés traversent l'Atlantique et ils sont brûlés en Grande-Bretagne ou à Paris. Et peut-être à d'autres endroits, ça je ne sais pas. Donc évidemment, l'industriel là-dessus met en avant le fait qu'il y a un circuit plus court que celui qui fait traverser l'Atlantique. Et sans doute pour lui de son côté, un gain aussi, un avantage économique, un avantage concurrentiel.
Mais c'est quoi le processus de torréfaction? Comment ça fonctionne?
Ils prennent du bois. Du bois vert qui est broyé, qui est broyé en plaquettes, en fait, plaquettes forestières, qui sont ensuite passées dans une tour de torréfaction qui chauffe avec un espèce de système de spirale avec une circulation. Ça tourne dans la tour en étant chauffé entre 200 et 300 degrés. Et donc il y a une dessiccation, le produit se dessèche et perd son humidité pour atteindre à la fin, les plaquettes forestières finissent à être toutes noires avec un taux d'humidité qui est, je ne sais plus, inférieur à 10%, de l'ordre de 5% je crois. Et après ça, ils sortent de la tour, ils sont passés sur un broyeur à marteau qui en fait de la poussière. Ensuite, ils sont réagrégés sous forme de pellets, justement, de granulés, avec, je crois, une petite adduction d'eau. Et les pellets, l'avantage aussi que met en avant l'industriel, c'est que contrairement au pellet blanc, le pellet blanc, s'il prend la flotte, il fond. Le pellet torréfié, s'il prend la flotte, il est hydrophobe. Donc c'est un produit, on peut le stocker à l'extérieur, sans risque. Et une fois qu'on l'a, on peut l'utiliser comme le charbon.
Ça doit utiliser une quantité d'énergie considérable de broyer des arbres verts. Hein, et puis, tous les processus que tu viens de décrire, déjà, c'est l'énergie grise, comme on dit. Enfin, ce qui est nécessaire pour fabriquer ça, c'est déjà énorme, non?
En travaillant sur ce projet, on s'est intéressé à ce qui pouvait exister comme documents préexistants, et on est tombé sur notamment des documents de Greenpeace et une note d'information d'une association, d'une ONG belge qui s'appelle Fern, que moi j'ai trouvé très intéressante et que j'ai partagée avec les autres membres de l'association, dont le titre est très explicite: brûler du bois n'est pas une solution pour enrayer le changement climatique. Et il y a plein de chiffres là-dedans qui expliquent notamment cette question de l'énergie grise. Alors, l'industriel, lui, quand il parle d'un pouvoir calorifique presque égal au charbon, il parle d'un produit fini, et évidemment, il ne va pas compter tout ce qui est mis en amont comme consommation, soit d'énergie carbonée ou fossile, le transport. Donc on va commencer par le bois, il faut l'abattre, ou en tout cas, une fois qu'il est abattu, il faut le récupérer avec des machines, en général à moteur thermique, etc. Le stocker dans des camions, le transporter jusqu'à l'usine, ensuite le broyer une première fois, le torréfier, rebroyer le résultat de la torréfaction, et ensuite il part par train jusqu'à sa clientèle. Et toute cette énergie-là, il nous a sorti des calculs qui ont changé un peu avec le temps. Ce qu'en dit le Fern au niveau des calculs généraux qui ont pu être faits, c'est qu'on est finalement sur un truc complètement équivalent au bois, on ne gagne rien, on a autant d'émissions de CO2, et en plus on supprime des puits de carbone, puisqu'en s'intéressant, la ressource, on n'a pas précisé encore, mais la ressource qu'il convoite, c'est des souches et des branchages, donc des rémanents, qui sont ce qui reste lorsque une parcelle a été coupée à blanc. On pouvait encore auparavant laisser ces trucs-là. Déjà, la coupe à blanc, on pourrait en parler, mais auparavant, ces déchets, entre guillemets des déchets, étaient laissés sur place, ils se décomposaient doucement, et ils contribuaient à réenrichir le sol, ils contribuaient aussi finalement à stocker du carbone. Là, on les prend, donc le sol se stérilise, et on a une partie des puits de carbone qui sont supprimés au passage. Donc là aussi, il y a de l'énergie grise, on va dire, d'une autre manière, c'est-à-dire qu'il y a une capture de carbone qui n'est pas réalisée, et il y a au contraire quelque chose qui va être relâché dans l'atmosphère à la fin.
Mais je veux dire, il y a différents éléments. Pour moi, il y a un élément, c'est la question de économique, on pourrait dire. Parce que, enfin, en tout cas, pour les plaquettes dans une centrale comme Gardanne, mais je pense que c'est aussi le cas à Drax en Grande-Bretagne, c'est uniquement rentable parce qu'il y a des subventions considérables qui viennent de l'État. Dans le cas de Gardanne, voilà, c'est 70 millions d'euros par an pendant 20 ans. Et une chose qui montre que c'est sans doute vrai, c'est que c'est peut-être peu connu, mais aux États-Unis, il n'y a aucune usine de taille importante de biomasse. Et pourtant, c'est là-bas que les pellets sont fabriqués. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de subvention aux États-Unis pour de telles centrales. On a du mal à croire qu'un tel processus pour créer des pellets peut être rentable. Cette usine, ça va être indirectement recevoir des subventions parce qu'à Paris ou ailleurs, enfin, ces lieux-là, ils sont subventionnés.
Alors, je n'ai pas encore précisé une chose. L'industriel ne cesse de dire qu'il n'a pas de subvention. Donc, pour le lancement de l'usine, qui est un projet, selon les moments, entre 15 et 22 millions d'euros d'investissement, il a d'ores et déjà une aide de 3 millions d'euros de la région et une aide de 4 millions d'euros de l'ADEME, ainsi qu'une aide, donc là on parle de fonds publics, région et ADEME, ainsi qu'une aide d'un fonds de type partenariat public-privé qui est cofinancé par Charbonnage de France et EFAGE, de 1,5 million d'euros. Si on fait tout ça, on est à 8,5 millions, ce qui est entre la moitié et un bon tiers de l'investissement initial. Ce sont des avances, pour les 7 millions d'euros, en tout cas région plus ADEME, ce sont des avances remboursables, mais il est tout à fait connu que ces avances remboursables peuvent ne pas être remboursées, puisqu'il s'agit d'accompagnement à l'innovation et d'encouragement à l'innovation. C'est ça que je n'avais pas précisé, c'est que c'est un projet expérimental. On est sur la première usine de ce type en France, à cette échelle-là en tout cas, avec un procédé qui par ailleurs a été expérimenté par le commissariat à l'énergie atomique. Areva fait des recherches là-dessus également. Et donc on s'inscrit dans une politique au niveau européen et au niveau des États membres qui est accompagnée, encouragée par différentes mesures comme celles que je décris là et qui rendent clairement le projet viable. Un autre élément encore, c'est le prix d'achat du produit fini, puisque le prix d'achat va être surestimé afin d'encourager. Il va être accompagné de manière à ce que ce produit soit choisi préférentiellement à d'autres produits qui ont moins bonne presse au niveau de la transition énergétique. Et c'est une garantie finalement de vendre un produit à des prix qui au final sont élevés que parce qu'ils sont subventionnés. Mais ce ne sont que des subventions détournées et non pas, comme le dit l'industrie, des subventions directes. Mais au final, quand on fait le compte, on est évidemment sur un accompagnement du projet par différents niveaux d'instances européennes ou nationales.
Si on vient encore à la question climatique, moi j'aimerais insister un peu là-dessus parce que Fern, effectivement, mais pas que Fern, il y a des rapports extrêmement sérieux aussi. Il y a un endroit qui s'appelle Chatham House à Londres, mais il y a plusieurs rapports qui indiquent que le bois énergie, comme on appelle ça à niveau industriel, soit plaquette, soit pellet, en fait, c'est nettement pire que le charbon, en fait, pour les émissions à effet de serre. Il y en a qui parlent entre 1 et 2 fois plus quand on calcule la totalité de, enfin, tout le processus, si on veut. Autre élément, on dit aussi que c'est plus polluant, qu'il y a un gros problème. Là, ce n'est pas tellement le problème de votre usine chez vous, là, mais plutôt de là où on va brûler les pellets, c'est les particules fines, etc. Donc, est-ce que l'usine fait comme si, enfin, ce genre de questions, est-ce que ça a été abordé dans les enquêtes publiques, dans les débats publics, etc., qui ont eu lieu chez vous ?
Mais encore une fois, on est sur un procédé expérimental. Et je pense que c'est un élément, disons, qui est du côté de l'entrepreneur, puisqu'on est sur un régime dérogatoire. Et comme ils nous ont fait le coup avec pas mal d'autres projets, je pense notamment, c'est bien plus qu'un projet aujourd'hui, c'est le nucléaire, on commence, on verra après. Et c'est ce que dit aujourd'hui que l'enquête publique est terminée, c'est ce que disent toutes les personnes qui défendent le projet, c'est on va mettre en place des mesures pour vérifier. Mais on a tous les éléments pour voir venir. On a tous les éléments pour voir venir. Moi, je n'ai pas les éléments précis sur la consommation, les émissions au moment de la combustion. Et c'est extrêmement intéressant de relever que l'enquête publique s'est tenue avec énormément de zones d'ombre. Beaucoup de zones d'ombre, c'est-à-dire qu'elle s'est limitée au site industriel. C'est un site industriel à l'abandon, sur lequel il y a plutôt des plateformes en béton, des hangars en métal, des trucs pas très intéressants. Par contre, à proximité, on est en plein parc naturel, déjà. On a une zone de protection spéciale, on a des zones Natura 2000. Et là où l'étude et faites, c'est effectivement sur la combustion issue de la torréfaction, les rejets de composés organiques volatiles issus de la torréfaction, mais on ne parle à aucun moment de ce que produit la diffusion en masse de la combustion des pellets eux-mêmes. Ça, il n'y a pas d'élément là-dessus. Et donc, on peut imaginer qu'ils vont se lancer et observer après, et qu'on peut aller tout à fait dans le sens de ce que tu décrivais auparavant.
Comment réagit la profession forestière face à ce projet ? Normalement, on pourrait imaginer que des gens qui connaissent bien ces écosystèmes soient inquiets par l'idée de prélever souches et branchages dans une région où il y a déjà une très forte pression sur les forêts. Emeline.
La profession n'a pas publiquement pris position, que ce soit le syndicat des propriétaires ou l'Interpro, sieur, exploitant, etc. Je pense qu'au niveau des coopératives, il y en a plein qui pensent que ce n'est pas une bonne idée de dessoucher et qui se disent en fait ça marche, enfin, qu'ils n'arriveront pas à faire la pro comme ça et qu'on leur livrera du bois rond. Et à la limite, que du bois tritu, il aille à faire du bois énergie ou du bois de tritu. De toute façon, c'est pour un usage...
Tritu, il faut juste...
Trituration du bois qui aujourd'hui sert à faire du panneau de particules ou du papier. Donc c'est systématiquement un usage pour du bois de moindre qualité et puis qui est voué à partir en fumée tout de suite, que ce soit du papier ou du bois énergie. Donc eux, ils se disent qu'en fait, ils prendront du bois rond pour faire la pro. Et alors, à la limite, on peut se moquer que le bois rond, il parte à la trituration ou faire du bois énergie. En tout cas, il n'y a eu aucune prise de position publique, ni en faveur, ni contre le projet. Et ils sont plutôt, je pense, dans l'attente.
Et le choix que toi tu as fait de quitter un peu ce travail parce qu'il y avait certaines choses peut-être qui, voilà, tu questionnais certaines pratiques, etc. Tu avais envie de te mettre à ton compte. Est-ce que ça, c'est quand même pas tellement le cas de la plupart des collègues, quoi. C'est où il y a quand même maintenant des gens qui voudraient vraiment agir un peu selon certaines éthiques, on pourrait dire, et mieux maîtriser, comment être moins sous la pression d'un modèle avec lequel on a du mal à travailler, quoi.
Alors, les collègues qui quittent la coopérative pour se mettre à son compte pour faire gestionnaire indépendant, je pense qu'on est les deux seuls à l'avoir fait.
Ouais, parce qu'il faut préciser, il y a aussi ton copain, enfin ton mari, je ne sais pas quoi.
Ouais, on est parti à deux du coup, finalement à deux. Moi, c'était un projet que j'avais de longue date parce que j'avais envie de faire de la futaie régulière. Qu'aujourd'hui, en Limousin, faire de la futaie régulière en structure économique qui existe, ce n'est pas possible. Donc du coup, c'était un projet que j'avais de longue date. Et quand je disais que je partais, mon conjoint a dit... moi aussi je suis. Donc on est parti à deux, donc on n'a quasiment plus aucun revenu. Donc c'est clair que pour les collègues qui sont aujourd'hui en coopérative, c'est un choix personnel qu'il faut pouvoir assumer. Par contre, on est de plus en plus nombreux. Enfin, je veux dire, on est entre 10 et 15 indépendants sur la région. Je pense qu'on est une grosse moitié, enfin une grosse majorité, à bosser en irrégulier. Donc ça, c'est encourageant, parce qu'on peut commencer à se structurer, bosser en réseau, enfin échanger des idées, nos difficultés et avancer un peu plus vite et loin, quoi.
Pour nos auditeurs et auditrices un tout petit peu novices dans cette affaire-là, peut-être quand même dire juste rapidement qu'est-ce que ça veut dire irrégulier, une futaie irrégulière, ouais. Parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend ça forcément.
Oui, l'idée de la futaie irrégulière, c'est par opposition à la futaie régulière où tous les arbres ont le même âge, le même diamètre et seront récoltés en même temps. L'idée, c'est d'avoir une gestion où on fait de la récolte de bois comme un petit peu, on va éclaircir dans un jardin et on conserve un couvert continu. On travaille pour détourer les petits, on récolte un gros par-ci par-là et l'idée, c'est de maintenir tout le temps un couvert de la forêt où quand on fait une intervention, elle va un petit peu se voir, mais très rapidement, le travail qu'on a fait dedans, on ne se voit pas quand on se promène, ça ne modifie pas les paysages et ça conserve des écosystèmes en bonne santé, quoi.
Et apparemment, c'est assez productif, en fait. Ce n'est pas du tout quelque chose qui... On sort pas mal de bois comme ça, en fait. Même plus, certains disent, que des coupes rases tous les 40 ans, je ne sais pas quoi.
Ouais, alors c'est un mode de fonctionnement différent. Nous, on intervient plus régulièrement en enlevant un petit peu moins de bois à chaque fois. On vient juste prélever les intérêts de la banque, en fait. Le capital, c'est les arbres qui sont sur pied. Et tous les 5 à 10 ans, on vient juste prélever les intérêts. Donc, on conserve toujours le capital. On ne liquide pas le compte en banque du jour au lendemain. Donc, c'est une distribution des revenus qui est différente que dans l'autre modèle, mais qui n'est pas ni plus ni moins intéressante que l'autre, quoi.
Écoutons encore Antoine sur la réaction de la population locale.
Ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué parce que, comme je disais avant, c'est un site industriel à l'abandon. Et ce qui est étonnant de ce point de vue-là, c'est que justement, les entrepreneurs qui lancent des projets comme ça à grand renfort de fonds publics, il y en a déjà eu deux auparavant, à savoir la gare bois. Donc ça s'inscrirait sur une gare qui avait été aménagée pour le fret de bois par train. Après la tempête de 99 qui a abattu beaucoup d'arbres en Limousin, les pouvoirs publics ont mis en place une gare dont l'objet était d'exporter notamment les bois qui venaient de tomber dans les forêts du plateau et évidemment par la suite éventuellement les bois qui seraient coupés et qui pourraient circuler par train. 15 millions de francs d'investissement, on était en francs à l'époque dans les années 2000, pour une gare qui n'a jamais fonctionné parce qu'ils se sont rendus compte après coup que l'infrastructure ferroviaire ne pouvait pas supporter le poids de trains chargés en grumes, puisqu'on serait sur des trains de 1200 tonnes, et que l'infrastructure n'était pas conçue pour ça. Et donc ils devaient faire des trains de 1200 tonnes, et la SNCF, Guillaume Pépi s'est même prononcé là-dessus, en disant mais en fait, qu'eux, ils ne pouvaient pas faire des prix là-dessus, que en fait, pour 1 euro gagné, ils en dépensaient 2, et qu'il était donc impossible de faire tourner cette structure. La gare bois. Deuxième élément, une usine de recyclage de pneus. Alors, il ne s'agit pas de refaire du pneu, mais il s'agit de recycler la matière qui compose le pneu. Donc c'était financé notamment par des fonds européens FEDER. Ça s'appelait Limousin Environnement 2000. Et ils faisaient plutôt des revêtements de sol pour les gymnases ou les parcs d'enfants à partir du recyclage des matières des pneus. Ça a tourné pendant quelques années. Et puis à un moment donné, l'entrepreneur s'est barré avec la caisse en laissant sur place plus de 5000 tonnes de broyats de pneus qui sont par petites montagnes de pneus en lanières ou des fois de pneus entiers sur le site. Et là où c'est une aubaine incroyable, c'est que cet industriel, M. Gaudriot, arrive avec son projet d'usine appelée Torréfié et dit aux deux mairies qui sont concernées par les surfaces des entreprises et des zones industrielles abandonnées, il dit voilà, je vais redonner une vie à ce site, je vais utiliser la gare bois et je vais dépolluer les pneus. Et je vais créer de l'emploi. Créer de l'emploi, 20 emplois. 20 emplois pour des personnes qui travailleraient dans la manutention, le transport des matières, etc. Et en plus, il parle d'emploi indirect. Donc là, pour des communes rurales relativement désertifiées, qui ont perdu beaucoup de population au cours du XXe siècle, qui ont en plus des épines dans le pied comme celles que je viens de décrire, et qui n'ont même pas été capables au fond de poursuivre en justice l'entrepreneur des pneus qui s'était barré avec la caisse, c'est une aubaine. C'est une aubaine et ils n'ont pas été cherchés plus loin. Et donc à partir de ce moment-là, il a été impossible de questionner la pertinence de ce projet. Il y a un certain nombre de personnes qui se sont exprimées. On a cherché différentes approches argumentaires, parce qu'on a commencé par étudier la question, quand on nous a eu ce projet qui nous a tombé dessus. On n'a pas voulu prendre ça pour argent comptant, on s'est dit mais alors de quoi ça parle, qu'est-ce que ça implique, etc. Et on a émis une série de critiques à différents endroits. Il y a les critiques de nuisances immédiates, des composés organiques volatiles, etc. Il y a la critique des nuisances aussi au niveau du bruit, puisqu'on parle d'une usine qui va broyer du bois 24 heures sur 24 à moins de, par exemple, moins de 600 mètres d'une ferme équestre, qui elle-même accueille des jeunes, tout ça, à moins d'un kilomètre de deux campings différents, 1,5 km du bourg de Bujat, 1,5 km à peu près du bourg de Vian. Donc ça, c'est immédiat, les nuisances proches. On a voulu parler de ça. Là-dessus, la réponse a toujours été, il y a des experts, il y a des personnes qui travaillent là-dessus, il y a des garanties, on fera respecter les garanties. Lors d'une réunion publique qu'on a organisée avec l'association, on a même fait venir des gens qui vivent à côté d'une scierie qui consomme énormément de bois, qui est une grosse scierie industrielle, qui compte sa consommation de bois en mètre cube à la seconde, mais vraiment, ils consomment énormément. Et les gens se battent depuis 2 ans pour faire respecter les normes ICPE, les normes d'installation classées pour l'environnement. Et ça ne marche pas. Ça n'a pas suffi. L'autre élément, c'est les 80 km de rayon d'emprise. Quelle est la conséquence du prélèvement des souches et branchages sur les sols? Il n'y a aucun élément dans le dossier qui existe là-dessus. Le dossier est centré sur la zone elle-même. Donc on a essayé d'amener des questions à cet endroit-là. On a essayé d'amener des questions, comme on en parlait auparavant, au niveau de la biomasse et de la pertinence qu'il y a à brûler toujours plus de bois, même sous des formes transformées industriellement, et des avantages comparatifs par rapport à d'autres choses. Et on a le sentiment d'être face à quelque chose qui n'est pas de l'ordre du rationnel, mais de l'ordre de l'affectif, purement affectif. Et donc, on a eu très rapidement des opposants aux opposants qui sont apparus. C'est-à-dire que nous, on a commencé à s'opposer à l'usine, à tout le moins, sans même être forcément opposé, à dire « il ne faut pas progresser aussi vite, il faut qu'il y ait un vrai, véritable débat avec des contre-expertises, un débat contradictoire où notamment des personnes compétentes puissent poser la question de la stérilisation des sols, puissent poser la question de la pertinence de ce projet du point de vue des émissions de CO2, etc. Ça n'a jamais été possible. Et il y a un certain nombre de personnes du secteur qui ont perçu tout de suite un problème, un certain nombre de personnes du secteur qui ont perçu tout de suite une aubaine. Et les deux camps, entre guillemets, se revendiquaient d'un même slogan qui était « On ne veut pas que ce pays devienne un désert ». Pour les uns, que ça ne devienne pas un désert, c'était créer de l'emploi et créer du développement économique. Pour les autres, que ça ne devienne pas un désert, c'est ne pas vivre au milieu de coupes rases permanentes avec des grumiers, des sols qui se stérilisent, des grumiers qui passent par, etc. Et un espace naturel largement impacté par tout ça. Et ça a été très clivant. Il y a eu des invectives, des menaces, etc. Et il y a eu une véritable construction de la part de pas mal d'élus qui sont quasi unanimement favorables au projet. Les personnes qui s'opposent ne sont pas d'ici. Ils prétendent décider de l'avenir du pays alors qu'en fait, ils n'y connaissent rien. Et ils ont réussi à monter une histoire là-dessus, sachant que c'est faux parce que dans les personnes qui s'opposent, on a aussi des paysans, issus de plusieurs générations de paysans du plateau de Millevaches. On a des personnes qui sont installées depuis plus de 40 ans. Et on a effectivement aussi des personnes qui sont arrivées dans cette région, mais justement aussi pour sa qualité environnementale et pour ses paysages et pour un certain rapport à la question forestière, à la question de la nature. Par exemple, des retraités qui viennent passer leurs vieux jours et certains sont déjà repartis d'ailleurs parce que le projet d'usine les a fait fuir. Donc, on est sur des arguments qui peuvent être à tous endroits au final. C'est quoi l'avenir du pays? Qu'est-ce qu'on veut pour ce pays-là? La question économique, elle semble complètement biaisée par l'existence de subventions plus ou moins déguisées. La question des impacts environnementaux, on est sur une guerre ou une opposition entre est-ce que je crois aux garanties apportées par l'État ou est-ce que je n'y crois pas? Mais le fond de ça n'est même pas de l'ordre argumentaire et rationnel, il est de l'ordre d'un pur rapport affectif. Et on a fait beaucoup de travail depuis lors pour dépasser ça, avec de la patience. Et j'ai le sentiment qu'avec l'association, on a réussi, en faisant notamment beaucoup de réunions publiques, à montrer aux gens qu'on n'était pas la caricature qui avait été faite de nous. Mais ça n'a pas empêché, par contre, la progression administrative du projet qui est maintenant validée à tous endroits. L'enquête publique a eu lieu, le commissaire enquêteur a validé l'enquête, le conseil départemental des risques sanitaires et techniques a validé le projet, la préfecture a validé, et maintenant, on attend le moment où l'industriel décidera à construire, et on espère, avec les recours juridiques qu'on va faire et les mobilisations populaires qu'on va continuer à faire, que ça ne se fera pas quand même. Voilà.
Ce qui m'étonne un peu, c'est dans le milieu des forestiers, des gens qui connaissent quand même un peu la forêt, je veux dire, sortir les souches, sortir les remanents, c'est quand même relativement connu quand même, c'est très grave, quoi, parce qu'on enlève tout le matière, quoi, et qu'on ne va pas appauvrir gravement le sol, et à long terme, ça va être l'épuisement, quoi. Donc, est-ce qu'au niveau de cette profession-là, quoi, il n'y a pas plus de monde qui pose des questions, quoi?
Le milieu forestier, il est complexe, il y a plusieurs acteurs, il se pose différents types de questions. On est sur un territoire qui est devenu forestier en moins d'un siècle, et c'est extrêmement important à comprendre, puisqu'il n'y a pas une culture forestière ancienne de vieilles forêts qui serait transmise de génération en génération. On est sur une plantation massive entre les années 1920-1930 et après-guerre 1950-60. En fait, on est sur une forêt de rapport, on est sur une forêt de plantation, pas exclusivement, mais dans une grande proportion. On a 60, les deux tiers des bois sur pied sur le plateau de Millevaches sont des résineux qui ont été plantés dans le cadre d'un programme de plantation pour, en fait, à l'origine, tenter de compenser la perte de revenus liée à la déprise rurale en plantant sur les parcelles abandonnées des douglas et des épicéas qui devraient être récoltés lorsque, comme disent les gens là-bas, ils seraient mûrs. Il y a vraiment cette idée qu'un jour les arbres sont mûrs et qu'il faut tout raser. Et donc on a déjà une pratique assez ancienne de la coupe rase. Et les questions, on va dire environnementales ou de long terme, au final de savoir combien de cycles de coupe rase peut supporter une parcelle, elles sont souvent peu abordées. On est sur un système très sérialisé avec les personnes qui sous-traitent pour les coopératives, donc qui coupent. On leur dit tu coupes, ils coupent. Et ils doivent faire un rendement, tant de mètres cubes ou tant de tonnes par jour. Des coopératives qui viennent récolter le bois bord de route, qui sont pas les mêmes puisqu'ils ont fait sous-traiter. Donc qui, eux, juste marchands de bois, ils achètent, ils transportent. Ensuite, des scieries en aval ou la papeterie aussi de International Paper qui est en Haute-Vienne et qui consomme beaucoup de bois. La culture existante, elle est sur un cloisonnement. Et des personnes qui pensent la forêt d'un bout à l'autre, finalement, ont commencé à émerger. C'est plutôt une jeune génération de forestiers qui, eux, se sont complètement soulevés contre ce projet. Les autres ont plutôt vu à la fois une absence de concurrence par rapport à leur propre convoitise, puisqu'on prenait les souches et branchages, et pour les transporteurs, la possibilité de transporter encore plus et d'avoir peut-être même plus de boulot. Et donc c'est une question de culture forestière au final. Et c'est quelque chose qui est en travail sur le plateau depuis des années, mais qui a du mal à percer. Les études qui ont été faites, par exemple, sur justement les cycles de coupe rase montrent bien qu'au bout de déjà deux cycles de plantation de Douglas qui sont coupés très jeunes, à 35, 40, 45 ans maximum, parce qu'il ne faut pas qu'ils fassent plus de 40 de diamètre pour les scieries en aval, les sols s'abîment. Les sols s'abîment, on est déjà à les amender, mais c'est des constats qui sont récents, puisqu'il n'y a pas une ancienneté de la forêt. Et donc le fait que ce message passe et commence un petit peu à percer, beaucoup trop récent, les coopératives sont des grosses machines avec une inertie très forte qui refusent de bouger. Donc à cet endroit-là, ils ne se sont pas du tout soulevés. Voilà.
Luc et Sylvain ont également participé à l'Assemblée générale du Réseau pour les alternatives forestières. Ils font partie d'une nouvelle association, Fête tes racines, récemment créée dans le bassin d'Argentan dans le sud de la Corrèze, afin, entre autres, de contester ce projet de pellet torréfié à Bouja-Viam.
En fait, il y a eu plein de signaux qui ont convergé dans ce sens. D'abord, on voyait bien qu'il y avait beaucoup de coupes rases autour et que nous, on ne voudrait pas que notre cadre de vie soit transformé par ces coupes rases. Et ensuite, il y a eu donc ce projet d'usine à pellets qui a avancé très vite sur le plateau de 1000 vaches là, en une année. Et la campagne d'élagage de bord de route menée par le département de la Corrèze au pas de course. Et donc, tout ça a fait que la forêt est devenue un sujet pour plein de monde en même temps. Et nous, on s'est dit qu'à notre échelle, on pouvait au moins essayer de, entre autres choses, monter une association pour acheter de la forêt, mettre en lien les personnes qui ont de la forêt et qui cherchent une alternative à l'industrie. Et voilà, faire quelque chose qui ait du sens pour nous.
Oui, c'est des territoires très boisés, parce que c'est la géographie fait que c'est très pentu et que du coup, c'est des terrains qui ont été délaissés et qui se sont reboisés assez récemment quand même. Mais voilà, oui, c'est quand même bien recouvert d'arbres.
Pour situer, c'est combien de kilomètres de ce fameux projet de pellet qui risque d'augmenter, j'imagine, peut-être le déboisement, mais le coupe rase, parce qu'ils veulent brûler que des souches, quoi.
Alors, deux choses. Ils veulent brûler que des souches, mais dans l'enquête publique, l'industriel dit que si les souches ne suffisent pas, le bois d'élagage de bord de route viendra complémenter. Et ensuite, nous, on est à Argentat, c'est à peu près à 50 km à vol d'oiseau de l'usine à pellets, mais c'est aussi 1h40 de route. Donc pour les gens, c'est très distant, alors qu'au final, la zone d'emprise, c'est 80 km à la ronde, donc ça inclut largement Argentat et tout le Limousin.
Et qu'est-ce que vous imaginez donc comme activité principale, enfin, qu'est-ce que c'est vos objectifs avec ce Fête tes racines ?
Eh bien, on a pour objectif d'informer la population, notamment essayer de sensibiliser les propriétaires de forêts qui ne s'y intéressent pas forcément. On a pour objectif donc de les pousser à s'intéresser à cette forêt, à leur faire prendre conscience qu'en fait, avec les démarches lancées par tout ce que vient de décrire Sylvain, ces forêts sont menacées et à court ou moyen terme, on pourrait les voir disparaître en grande partie. On a pu constater que ça parle à beaucoup de gens. Et donc du coup, on voudrait les sensibiliser, les informer sur le fait que ces forêts-là, elles pourraient trouver une utilité en apportant une ressource bois, tout en restant des forêts et en abritant la vie qu'elles abritent et en permettant toujours d'y trouver des champignons, de pouvoir s'y promener. Ça, c'est quelque chose qui parle beaucoup. Et donc, on avait aussi envie, nous, de pratiquer l'expérience à plusieurs. Donc, pour ça, on aimerait collecter des dons et acquérir des parcelles de forêt afin d'y tenter une gestion et une exploitation forestière beaucoup plus douce, qui nous parle à nous, qui permettent que ces forêts soient toujours des forêts vivantes et qui permettent aussi d'avoir accès à une ressource bois, donc que ce soit du bois d'œuvre, de chauffage, ou voilà, une ressource bois d'une manière qui nous convient et qui fait qu'on puisse aussi y avoir accès à cette ressource bois pour du long terme, pour le coup.
Dans votre zone, c'est comme sur le plateau de Millevaches, beaucoup de plantations de résineux, ou est-ce que c'est aussi pas mal de feuillus? C'est quoi?
En fait, c'est assez contrasté. C'est-à-dire qu'autour de la Dordogne, la topographie est très accidentée, puisqu'Argentat, c'est au bord de la Dordogne. La topographie est très accidentée et c'est des feuillus qui ont recolonisé les anciennes parcelles agricoles. Par contre, dès qu'on s'éloigne un peu de la Dordogne et qu'on arrive sur le plateau, là, on constate la même logique que sur le plateau de Millevaches, c'est-à-dire du Douglas, de la monoculture de Douglas ou d'épicéa, et aussi des forêts de feuillus qui ont tendance à être défrichées et replantées en Douglas.
Vous avez fait une présentation avant, et si j'ai bien compris, c'était aussi un peu pour essayer de montrer qu'on peut faire des choses avec des petites quantités de bois, parce que très souvent, c'est les industries, notamment dans votre région, c'est une industrie forte qui, en fait, si quelqu'un a juste quelques arbres, finalement, elle a actuellement pas beaucoup de choix autre que de simplement l'envoyer à la trituration ou pour les peler ou des choses comme ça. Et donc vous voudrez montrer qu'en fait avec quelques grumes, il y a quand même autre chose qu'on peut faire.
Eh bien, tu compléteras Léo si tu veux. Et moi, mon expérience, c'est que donc nous, on a un chantier de rénovation en cours. Quand on est allé à la scierie d'à côté pour demander s'il pouvait nous fournir en bois coupé à la bonne époque, et qui ne soit pas vert, donc qui ne se rétracte pas ou qui ne vrille pas. Il nous a dit que c'était impossible parce qu'il fonctionnait à flux tendu, parce que c'était les industriels qui dictaient la façon de fonctionner. Et donc on s'est aperçu qu'effectivement, avoir du bois de qualité, coupé à la bonne époque, c'était... Mais il n'y avait pas de filière.
Mais là, il y a tout un mouvement, en fait. Enfin, mouvement. Il y a quand même pas mal de gens qui sont opposés à cette usine de Pelé qui est proposée. Là, ça fait quand même pas mal de temps qu'on entend parler, de beaucoup de gens qui ont réagi par rapport à l'enquête publique. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de réseau, et vous faites partie de quelque chose de plus large qui va dans ce sens, ou qui refuse cette manière de faire? Parce que c'est, moi, j'étais une fois au plateau de Millevaches, mais moi, j'étais quand même assez frappé par, c'est peut-être moins le cas chez vous, mais en tout cas, une population qui, en fait, la forêt, c'est quelque chose de subi. Souvent, c'est quelque chose que les gens... Il n'y a pas un amour pour la forêt, il n'y a pas quelque chose... C'était imposé, et puis c'est sombre, ça vient presque jusqu'au village, etc. Donc, des gens qui essayent de se dire qu'il faut faire autrement.
C'est peut-être moins le cas par chez nous, du fait qu'il y a beaucoup de forêts qui sont issues d'accrues naturelles et qui ne sont pas de la monoculture industrielle, donc qui... Il y a une moins grande distance entre les populations locales et ces forêts. Ils y trouvent à se promener, ils y trouvent des champignons. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une culture forestière, quoi. De même que sur le plateau de Millevaches, un peu plus haut, au nord de la Corrèze, où là, il y a beaucoup, beaucoup de monocultures industrielles.
Si je peux rapporter mon expérience, c'est qu'on a tenu un petit stand d'information sur le marché d'Argentat pour la première fois. Et en fait, on s'est aperçu, on a eu des retours assez favorables, ça a bien marché. Et donc on s'est aperçu que en fait, la situation était très ambivalente, c'est-à-dire que pour toute une frange de population plutôt âgée, la forêt, effectivement, ça symbolise la déprise agricole et l'échec en fait, à faire vivre un territoire. Et donc c'est angoissant. Mais pour une autre frange de la population, eh bien, c'est un patrimoine, une source d'inspiration, c'est beau, etc. Donc, c'est tout en ambivalence. Oui.
Vous proposez un événement là prochainement, je crois, non ?
On propose une réunion d'information et de présentation de notre projet qui est donc en cours de fabrication, si je puis dire, pour donner un état des lieux de là où on en est, voir si d'autres gens sont prêts à nous rejoindre et à s'investir dans ce projet-là pour amener leur pierre à l'édifice et continuer à avancer. Et donc cette réunion a lieu le 15 juin à la salle polyvalente de Saint-Chamond à 19h. Donc on s'y retrouve voilà, pour présenter, discuter et manger ensemble avec ce que tout un chacun aura ramené.
Ok, mais merci. Juste pour revenir à ce fameux projet des pellets, on est où là ? Il y a eu, je crois, une enquête publique, etc.
Il y a eu une enquête publique avec une très très large participation, de nombreux débats. Ça n'a pas été sans difficulté localement, en mettant un petit peu des tensions entre les habitants, entre les commerçants qui se disent « Ah, ça va apporter de l'emploi » et d'autres qui disent « Moi, je suis venu m'installer ici parce que le paysage, il est beau ». De nombreuses réponses pour un avis défavorable à l'enquête publique. Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable. Et là, il y a quelques semaines, la préfecture a donné le feu vert pour lancer le projet. Du coup, les associations qui sont mobilisées contre ce projet via le réseau des juristes de France Nature Environnement, a priori, s'orientent vers une poursuite juridique pour demander une annulation de l'autorisation préfectorale, mais je n'ai pas trop d'infos.
Mais on va mener un recours en justice sur la question de l'enquête publique et l'autorisation préfectorale, puisque à plein d'égards, du point de vue du droit de l'environnement, il y a des choses qui n'ont pas été respectées et qui, si elles étaient prises en compte, serait sans doute retoqué par l'administration, par la justice. Ça, c'est en cours de préparation. Il y a un appel de la part de l'association Noël à la Montagne Pelée à créer des comités locaux, mais pas seulement sur la question de l'usine qui s'appelle CIBV, mais sur la question de la forêt. Puisque derrière la question de l'usine, il y a la question de la forêt. Et ce qui fait que les gens ne se posent pas de questions sur l'usine, c'est qu'il y a au final cette question de la forêt qui n'est pas assez appropriée par les habitants. Donc on invite tout le monde à faire l'état des lieux sur sa commune et à créer des comités d'habitants pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, que deviennent les forêts, les propriétaires, est-ce qu'ils sont bien informés, est-ce qu'ils sont bien conseillés, quels choix ils font, pourquoi ils font ces choix-là, etc. Donc c'est des comités, certains ont commencé à se créer à notre connaissance, au moins deux communes de Corrèze ou de Creuse, puisqu'on est sur un territoire de plusieurs départements. Et là enfin, on veut lancer un appel à rassemblement qu'on pourrait appeler un rassemblement contre la biomascarade et pour des forêts vivantes, où on commence à inviter des réseaux à la fois locaux qui ont été déjà sensibilisés et intéressés par tout le travail qu'on a fait localement. On a fait plus de 10 ou 12 réunions publiques qui à chaque fois ont réuni entre 30 et 40 personnes. Et on sait que ça travaille. Dans le pays, on va dire, et que des gens pourraient avoir envie de venir. Et puis au niveau national, parce qu'il y a d'autres oppositions à des usines de biomasse qui sont montées dans les dernières années, et aussi parce qu'on sait que, par exemple, le réseau des alternatives forestières, par exemple l'association André Morvan, par exemple SOS Forêt du Sud, sont des espaces dans lesquels se posent des questions sur le devenir des forêts, et qui sont clairement aussi des espaces où la question de l'exploitation pour la biomasse n'est pas du tout évidente, et voire même largement critiquable pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Donc voilà, 28-29 juillet, sur le plateau de Mille Vaches, on est en train de finaliser l'appel au rassemblement. Il y a un site, c'est nonalamontainepelée.fr. Ça va sortir dessus bientôt et on espère qu'il y aura un maximum de monde et qu'on va enfin faire entendre notre voix et faire plier l'industriel qui, à un moment donné, s'il se rend compte que ça passe pas, laissera tomber. Voilà.
C'était Pelée de Discorde. Une émission de Radio Zinzine. Si vous voulez savoir plus sur la lutte contre cette usine, vous pouvez consulter le site, tous dans un seul mot, nom à la montagne Pelée. Pelée avec un S à la fin, donc .fr. Si vous voulez réécouter ou télécharger cette émission, vous pouvez la trouver sur le site www.radiozinzine.org. Les musiques qui ont accompagné cette émission sont toutes du groupe danois Afengin.